réplique, PMA, GPA, les nouveaux enjeux de la bioéthique, avec Laurence Brunet et Marianne Durano. Il y a 15 jours, je demandais à Nicolas Bavré et Alain Minc de quoi demain sera-t-il fait. Nous allons aborder aujourd'hui la même question, mais sous un angle particulier, l'avenir de la filiation. Ce sujet est au programme des États généraux de la bioéthique et j'ai invité pour en parler la juriste Laurence Brunet et la philosophe Marianne Durano. Avec notamment Elisabeth Bonnater, Annie Ernaux, Pierre-Rosan Vallon et Irène Théry, vous avez signé, Laurence Brunet, une tribune appelant à l'encadrement et à la légalisation en France de la gestation pour autrui. Rappelez-nous, si vous le voulez bien, en quoi consiste précisément cette pratique et dites-nous pourquoi, à certaines conditions, vous lui êtes favorable, Laurence Brunet.
Bonjour. La gestation pour autrui, c'est le... La solution, enfin en tout cas l'aventure humaine, hein, je dirais, qui permet à une femme, à un couple dont la femme ne peut pas porter d'enfant pour des raisons médicales, ou à un couple d'hommes qui évidemment ne peut pas avoir d'enfant par ses seules ressources, de recourir à l'aide, hein, à la collaboration d'une femme pour avoir un enfant. Cette femme qu'on appelle porteuse, gestatrice, mère porteuse, on discutera peut-être des termes plus tard, c'est une femme qui va porter cet enfant, qui peut aussi avoir fourni ses ovocytes ou qui peut ne pas les avoir fournis, c'est-à-dire que l'embryon peut avoir été conçu avec l'apport des parents d'intention, ou il peut avoir été conçu aussi avec une donneuse d'ovocytes. Donc c'est une figure extrême de la maternité, puisque c'est une figure qui suppose une diffraction entre deux, trois figures féminines qui vont contribuer à permettre à une femme ou à un couple d'avoir un enfant alors que ça ne serait pas possible. Voilà. Donc c'est une loupe de la diffraction de la maternité, mais c'est aussi la seule et unique technique qui n'a pas été abordée en 1994 lorsqu'on a réfléchi sur les moyens sur les solutions possibles pour surmonter l'infertilité et la stérilité de certains couples. Donc je la prends en ce sens comme une technique extrême. Extrême, peut-être transgressive, sujette à discussion, des procréations médicales assistées.
Oui, voilà. Sujette à discussion, mais vous avez signé la tribune qui appelle à sa légalisation. Donc la discussion, pour vous en tout cas, est tranchée. Alors, la gestation pour autrui suscite de multiples objections. Qu'est-ce qui vous fait les surmonter? Qu'est-ce qui vous a conduit à défendre et à vouloir la légalisation d'une telle pratique en France, Laurence Brunet?
D'abord, la tribune, elle a une ambition beaucoup plus restrictive. Sa première ambition, c'était de régulariser non pas la GPA, mais les enfants nés de GPA. C'était vraiment la première finalité de cette tribune, c'était de ne pas en rester à ce que la Cour, au compromis boiteux pour une juriste, mais pas que pour une juriste, auquel aboutissait la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, et ensuite la manière dont la Cour de cassation avait été obligée de réformer le droit français d'une manière assez par système de replâtrage et de manière extrêmement contestable, et qui finalement aboutissait à laisser complètement de côté la mère d'intention. C'est ça qui avait au départ qui a suscité la mobilisation de ce groupe qui a signé la
Mais
tribune.
Mais vous allez plus loin en même temps, puisque vous dites que l'opinion publique est prête. Les Français vont même plus loin que la demande exprimée dans cette tribune. En fait, elle est en effet intitulée « On ne peut plus ignorer les enfants nés par GPA ». Les Français sont 64%, selon un sondage publié de l'IFOP et publié par Lacroix. Ils sont favorables à la légalisation en France de la GPA, ce qui confirme une tendance favorable depuis 10 ans. Donc, cette tribune, si vous voulez, elle vous dit « Bon, commençons par les enfants, et puis la légalisation suivra, et cette légalisation, elle la demande de manière presque explicite. »
elle la demande, bien sûr, c'est quelque... C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à partir du moment où le droit français a été conduit à régulariser la situation des enfants, je pense qu'il serait utile de réfléchir en amont à comment anticiper. Parce que je pense que c'est... Enfin, je veux dire, simplement se contenter de valider la filiation des enfants nés à l'étranger n'est pas satisfaisant. Et ce qu'on appelle, nous, c'est pas forcément à... Enfin, dans un premier temps, c'est à la discussion sur cette notion. Parce que pour l'instant, elle est considérée comme de manière diabolique, la gestation pour autrui. Elle n'est pas abordée. La bonne preuve, c'est que le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis de juin 2007, absolument récuse toute possibilité de l'aborder. C'est-à-dire qu'elle est exclue du champ et du programme des États généraux de la bioéthique. Je ne pense pas que ça soit de cette manière-là qu'on va pouvoir aborder la question de manière efficace et utile, puisque aujourd'hui, et les juristes, la juriste est différente dans ça du philosophe et de la philosophe, c'est qu'on a les mains dans le cambouis et que les enfants sont là. Donc on est obligé de trouver une solution et ça nous amène à réfléchir à la filiation et donc à la place de la femme qui a porté ses enfants.
Je pense que Marianne Durano va vous faire un peu sortir du bois. Quelle est Marianne Durano, quelle est votre position sur cette question, la gestation pour autrui?
Bonjour, en effet, je pense qu'on a plein de points à discuter ensemble. Bon, moi, je suis très fermement opposée à la gestation pour autrui. Je le dis clairement, qu'elle soit soi-disant altruiste ou commerciale. Donc, on en rediscutera ensemble. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est une méthode qui consiste à réduire la grossesse à un service qu'on peut externaliser. Alors, le service peut être gratuit, il peut être monnayé. Dans tous les cas, en fait, ça réduit toute grossesse pour toutes les femmes à finalement un pur événement technique qu'on pourrait aisément déléguer à quelqu'un d'autre. Alors à quelles conditions, ça c'est ce dont on pourra discuter. Et moi en tant que mère qui a eu deux enfants, je ne peux pas imaginer pouvoir considérer ma grossesse comme un service parmi d'autres. Que ce service soit considéré comme un travail ou comme un acte altruiste, à la limite on pourra en discuter. Pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire on considère que la grossesse c'est un... Ce n'est pas un événement fondamental dans la vie d'une femme, c'est quelque chose qu'elle pourrait faire pour autrui. Donc ça, on pourrait en rediscuter, mais pour moi, pour avoir discuté un tout petit peu, alors pas assez à mon goût, avec des femmes qui ont fait l'expérience de la maternité pour autrui, ou pour avoir vu des reportages, ce qui me frappe, c'est cette dissociation, vous parlez de diffraction, au sein même de la mère porteuse, entre son psychisme, son corps et l'enfant qu'elle porte. Et beaucoup de ces femmes disent « ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas, ça se déroule pour ainsi dire en dehors de moi, comme si mon corps n'était pas moi-même ». Et il y a un terme qui revient assez souvent, qui me frappe, c'est beaucoup de mères porteuses disent « je ne suis qu'un four qui tient les
petits pains au chaud ». Voilà. Vous citez dans votre livre « Mon corps ne vous appartient pas », Ophélie, mère porteuse, donc, qui est interviewée dans un documentaire pourtant largement favorable à la GPA, et elle dit ceci: je suis comme le four qui tient au chaud des petits pains, ou les petits pains.
Oui, et j'ai retrouvé cette expression dans la bouche de beaucoup de mères porteuses, enfin, et même sur les réseaux sociaux, parce que c'est le seul moment où j'ai l'occasion de parler avec ces femmes-là. C'est une expression qui est revenue. Je les tiens au chaud, mais ce n'est pas moi.
Elles sont obligées de filer cette métaphore, parce que d'une certaine manière, Laurence comme Bonnet, vous dites, il y a la nécessité de pas considérer qu'elles veulent pas considérer qu'elles abandonnent l'enfant. Elles veulent considérer qu'elles le rendent aux parents pour lesquels elles le font. Donc évidemment, cette dissociation est absolument fondamentale.
Mais je pense que
cette aventure ne serait pas possible. Il faut que ces femmes puissent accepter ou puissent justement être capables, et toutes... Je pense pas que toutes les femmes soient capables de le faire, mais je pense que certaines femmes sont capables de le faire et je vois pas au nom de quoi on pourrait leur dénier cette possibilité-là.
Je pense que certaines femmes sont capables de le faire. En revanche, je doute fortement que les enfants, eux, soient capables de le faire. C'est-à-dire que de plus en plus d'études maintenant montrent qu'il y a des liens mère-enfant qui se crée in utero, et là, j'entends mère gestationnelle, et le petit enfant dans le ventre de sa mère, lui, n'est pas au courant qu'il ne lui appartient pas génétiquement, et pour avoir donné naissance à des enfants, et toutes les mères vous le diront, la première chose que cherche un nouveau-né quand il naît, c'est l'odeur de sa mère, c'est le goût de sa mère, c'est le son de sa mère, parce que sa mère a constitué tout son monde pendant 9 mois. Et cette dissociation que les femmes s'imposent, je la trouve très violente pour les femmes, mais pour des enfants qui ne peuvent pas en fait opérer cette dissociation, eux, quand ils sont nouveau-nés, je trouve que c'est encore plus violent. Je lance quelques pistes, on en rediscutera. Pour ce qui est du statut des enfants nés par GPA à l'étranger, J'aimerais interroger la juriste que vous êtes sur la circulaire Taubira, qui, à partir de 2013, reconnaît la nationalité française aux enfants nés par GPA à l'étranger. Donc c'est quand même déjà une première reconnaissance légale de cette pratique. Donc dire que ces enfants n'ont aucun statut, moi je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'on a déjà essayé de leur accorder une place, la difficulté étant de leur accorder une place sans légitimer la pratique qui les a fait venir au monde.
Vous pointez bien la contradiction. Effectivement, reconnaître une place à ses enfants, reconnaître, c'est bien pour ça que toute la question part du statut de l'affiliation, du statut familial de ses enfants. Et il est évident que avant même que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte à l'identité de ses enfants, qui ne pouvaient pas être reconnus comme faisant partie de la famille de leurs parents d'intention, la question était déjà finalement tranchée par la circulaire Taubira, qui ne règle que la question de la nationalité, parce qu'évidemment, selon l'endroit où l'enfant était né, la nationalité française n'était pas automatique, et il fallait que ces enfants puissent rentrer sur le territoire français. Mais bien sûr qu'on ne peut pas dire que la circulaire Taubira ait réglé le statut juridique des enfants, puisque toute la question ensuite, c'est, puisqu'on est un pays où tout doit être inscrit sur le livret de famille, il faut que les deux parents puissent être inscrits sur les registres français de l'état civil, ce qui n'est pas une mince affaire.
Oui, mais Laurence Brunet, justement, moi, je voudrais aussi solliciter la juriste que vous êtes. Il n'appartient pas au droit de s'aligner sur les faits. Or, c'est un peu ce qui se passe avec la question des enfants. Nous vivons dans un monde mondialisé. La gestation pour autrui est autorisée dans un certain nombre de pays, les États-Unis, mais aussi plus près de nous, l'Ukraine, à des tarifs différents. Nous reviendrons sur cette question tarifaire. Et donc, on dit dans un premier temps, on va reconnaître les enfants. Et dans un deuxième temps, pourquoi ne pas rapatrier la GPA chez nous? Mais avant toute chose, il faut s'interroger sur le sens et la moralité éventuelle d'une telle pratique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de traiter ainsi des femmes? Alors, je vous cite à toutes deux un passage du livre de Svetlana Kazansky, Corps en miettes. « Le seul usage du ventre est contraire à la dignité, même s'il pouvait n'être pas marchand, parce qu'il fait de l'existence même de l'être humain un moyen au service d'autrui. » Et en effet, c'est-à-dire, on loue son ventre jour et nuit, ce qui est quand même différent de la location de la force de travail, pendant 9 mois. Le droit protège aussi l'indisponibilité et la dignité des personnes. Est-ce que là, au nom du droit qu'auraient certains individus à avoir des enfants à tout prix, cette dignité et cette indisponibilité des personnes est encore protégée? Il me semble que c'est ça la grande question. Laurence Brunet.
Oui, mais le droit n'est pas simplement une morale abstraite, universelle, déconnectée des faits. Je pense qu'à partir du moment où le droit est sans arrêt contourné, il faut s'intéresser aussi à pourquoi et comment il est contourné et ce que les gens attendent. Les gens attendent du droit, non pas qu'ils mettent des interdits, mais qu'ils les accompagnent dans leur recherche d'enfants. C'est ça l'encadrement de la filiation. Donc, à partir du moment où une loi devient inefficace, est-ce qu'on continue à abstraitement considérer qu'elle existe toujours, ce que fait le droit français, et à le contourner par la jurisprudence parce que les faits sont là? Il y a une résistance de la société civile. Il y a vraiment beaucoup de couples homo ou hétéro depuis une quinzaine d'années. Quand on regarde les revues juridiques, on sait bien qu'il ne s'est pas passé une année sans que plusieurs affaires viennent devant les tribunaux. Est-ce que simplement on considère qu'il faut sanctionner les parents, alors les mettre en prison, empêcher que la filiation soit reconnue? La dissuasion de la loi n'a pas suffi. Est-ce que d'une certaine manière, on ne doit pas réfléchir autrement? Je prends un autre exemple, l'adoption internationale. Les gens ont eu besoin de envie d'avoir des enfants, ne peuvent pas en avoir. C'est impossible d'en trouver en France, de les adopter en France. Ils ont eu recours à l'adoption internationale de manière massive dans les années 80-90. Est-ce que le droit est venu interdit? Non, le droit est venu encadrer. Parce qu'il y a un moment donné où cette porosité du droit et du fait doit, alors peut-être pas une porosité totale, mais est-ce qu'on peut simplement considérer que la morale est figée dans le marbre de la loi, tel qu'il est inscrit effectivement dans les articles 16 et suivants du Code civil, où la question de l'indisponibilité de l'État, du corps, l'interdiction des mères porteuses, est aujourd'hui inscrite pour toujours? Est-ce qu'on va y revenir? Les faits le contredisent sans arrêt le droit. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors je pense que là, on est arrivé immédiatement au cœur du problème, c'est-à-dire le statut de la loi. La loi, c'est pas seulement une morale abstraite. En revanche, en tout cas moi, telle que je la conçois, la loi est là pour protéger les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas nécessairement le pouvoir de faire valoir leurs droits devant des tribunaux, c'est-à-dire en l'occurrence les enfants. Étymologiquement, l'enfant, c'est celui qui est privé de parole, et c'est au nom, je pense, de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'on peut refuser d'aligner le droit sur les faits. Non pas au nom d'une morale abstraite, en effet, mais au nom de l'intérêt de ceux qui ne peuvent pas faire valoir leurs intérêts. Alors ça, l'avenir nous le dira, effectivement, hein, je pense que l'impact qu'aura ces modifications de la filiation sur les enfants de demain, ça seul l'avenir nous le dira. Mais donc, premier rôle de la loi, protéger les plus faibles. Deuxième rôle de la loi, défendre une certaine conception de la dignité humaine et, si nécessaire, contre l'individu lui-même.
Mais Marianne Durano, est-ce qu'il ne faut pas aussi protéger les femmes contre la perspective de quelque chose qui ressemble
bien sûr
à un asservissement?
Et je pense qu'on peut protéger les individus, et donc en l'occurrence les femmes, contre eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, quand on interdit la vente d'organes, on protège les individus aussi contre eux-mêmes et contre l'aliénation qu'ils seraient prêts à accepter pour avoir de l'argent ou pour plein d'autres raisons. Et j'aimerais parler, je fais un petit pas de côté, parler de la jurisprudence bien connue du lancer de nain.
Ah bah oui, le fameux lancer de nain.
À vos auditeurs, le fameux lancer de nain, qui est une tarte à la crème des études de philosophie. Dans certaines fêtes, dans certains hauts lieux, la mode voulait qu'on lance des nains sur des cibles en guise de divertissement. Et les nains étaient parfaitement consentants, ils signaient une décharge, enfin voilà, disons qu'ils étaient consentants. Et la loi française a décidé d'interdire ces lancers de nains au nom de la dignité de la personne. Alors, c'est un exemple un peu rigolo et un peu moins dramatique que la GPA, mais là, on voit bien que le consentement de la personne ne suffit pas à fonder un droit. Pourquoi ? Parce que chaque personne représente en elle la totalité de l'humanité. Quand on lance un nain, c'est la totalité des nains que l'on considère comme des objets de divertissement. De même que quand une femme choisit d'aliéner son corps au projet d'enfant d'autrui, pour moi, c'est le corps de toutes les femmes qu'elle transforme en une ressource qu'on peut mettre à disposition d'autrui. Donc, le rôle de la loi, c'est de protéger les plus faibles, ici les enfants, et de protéger la dignité des femmes, donc ici des mères porteuses.
Mais alors, moi, peut-être que j'ai une vision irénique ou trop parcellaire de la gestation pour autrui. Je n'ai pas fait une enquête de terrain, je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes porteuses, mais suffisamment pour avoir une vision un tout petit peu différente de la vôtre. Et je pense que ces femmes qui s'engagent, on peut se baser sur l'enquête qu'a fait Delphine Lanz, que vous citez dans votre ouvrage. Je pense que les femmes américaines ne visent pas du tout comme un asservissement. Je pense qu'il y a une forme de collaboration procréative dans sur laquelle j'aimerais qu'on revienne parce que ça va nous emmener sur la question de la PMA et de la place des donneurs. Et je pense qu'aujourd'hui, repenser la filiation, c'est repenser l'ensemble des personnes qui peuvent intervenir pour permettre aux gens d'avoir des enfants, ce qui reste quand même une finalité assez positive. Et je crois que le droit, justement, s'il doit intervenir, c'est pour protéger effectivement la femme porteuse, mais protéger aussi les parents pour que les choses puissent se passer au mieux, puisque de toute façon, voilà, moi je suis positiviste, la pratique se passe et elle ne fera que se développer. Et donc je considère que ça serait vraiment se placer dans notre tour d'ivoire en disant ça n'existe pas, c'est interdit, pour moi n'est pas une solution parce que voilà, je suis juriste et je travaille sur ces cas-là. Mais il me semble que la loi doit intervenir effectivement pour protéger la femme porteuse, je suis tout à fait d'accord
avec vous. Mais vous citez l'exemple américain, Laurence Brunet, c'est très intéressant parce que les Américains ont quand même le mérite de ne pas se payer de mots. Il ne s'agit jamais de GPA éthique. Les femmes américaines sont rémunérées, et les agences aussi, donc ça coûte assez cher. Et là, je voudrais opposer deux citations que j'ai trouvées dans votre livre, Marianne Durano. Najat Vallaud-Belkacem, lorsqu'elle s'occupait au Parti Socialiste des questions de société, Najat Vallaud-Belkacem a donc déclaré « Reflet d'une société consumériste où toute relation est par nature marchande, miroir d'une société individualiste aussi, les opposants à la gestation pour autrui ignorent par-dessus tout la part d'humanité et de liberté éminente qu'il y a incontestablement dans cet acte de générosité. » Il me semble que, au moins, Pierre Berger a le mérite de ne pas se raconter d'histoire, puisque lui déclarait tout de go « Moi, je suis pour toutes les libertés, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différente ! C'est faire une distinction qui est choquant. » Or, moi, je pense que le droit doit, à tout prix, peut-être Richter, maintenir cette distinction. Sinon, c'est ouvrir au marché des choses qui ne devraient pas lui appartenir. Et ce qui est étonnant, c'est de voir la gauche étendre le domaine des marchés au lieu justement de lui fixer des limites, parce que les défenseurs de la gestation pour autrui se réclament de la gauche et accusent leurs adversaires d'appartenir au milieu tradit, ce qui n'est pas vrai pour tous.
Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question de l'argent, parce que moi je ne crois pas aux dons gratuits. Je pense qu'un don c'est toujours très cher, surtout si finalement en contrepartie il n'y a pas d'argent qui est versé, parce que c'est ce qui lie peut-être le plus péniblement les individus. Je me fie sur ce que j'ai lu, ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Il m'a semblé que justement la question de l'argent était au cœur peut-être du mouvement de la liberté que la femme porteuse pouvait avoir. Il me semble que ces femmes nous disent que elles ne le feraient pas s'il n'y avait pas d'argent, c'est clair. Mais que ce n'est pas pour autant que l'altruisme est exclu de leur motivation. Donc, il est tout à fait possible aujourd'hui, parce que la seule forme de valorisation aujourd'hui, c'est l'argent, vous serez d'accord avec moi là-dessus, tout à fait possible de se dire qu'on peut contribuer au projet d'autrui de manière altruiste et en même temps avoir besoin d'une forme de valorisation. Quelle autre forme de valorisation a-t-on que l'argent? C'est difficile. On pourra discuter de la même chose pour les donneuses d'ovocytes ou pour les gens qui aujourd'hui voudraient donner leur gamète. Mais important aussi, et quelque chose qui m'a beaucoup ébranlée, c'est que finalement, des femmes porteuses disent que si elles n'avaient pas été payées, elles n'auraient pas accepté de le faire, parce qu'elles auraient eu l'impression aussi que pour les couples, les receveurs, qui vont finalement recevoir un cadeau énorme, enfin un enfant, c'est quelque chose de miraculeux, ça n'a pas de prix effectivement, mais cette façon, la manière dont le couple d'intention va finalement donner quelque chose à la femme porteuse va être aussi pour eux la manière d'éteindre une dette. Et je crois que c'est ce lien qu'il faut justement essayer de mettre sur pied, qui, à mon avis, s'englobe dans une nouvelle forme de parentalité. Eh bien, peut-être qu'il faut essayer de travailler sur la manière dont, justement, ces relations, la manière de poser des contrepoids, d'éteindre des dettes, de pouvoir donner une place à chacun. Est-ce que l'argent est finalement là-dedans quelque chose de si sale qu'on pourrait imaginer? Je ne crois pas. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas tellement d'autres manières de concevoir cette espèce d'éteindre les dettes entre les uns et les autres. Et moi, je crois profondément qu'on ne peut pas exclure totalement argent et altruisme. Ça ne me semble pas du tout une bonne façon de penser les choses.
Marianne Durano.
Alors déjà, merci au moins de ne pas faire semblant d'ignorer la dimension de l'argent. Néanmoins, moi je suis d'accord avec vous, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut éteindre cette dette. Et je ne pense pas que la bonne conscience des parents d'intention puisse s'acheter en donnant 22 000 euros à la mère porteuse. C'est le plus haut plafond fixé par exemple par le Canada qui se prévaut d'une GPA éthique. Parce que pour moi, l'enfant c'est pas un cadeau, c'est pas quelque chose qu'on peut même donner. Et donc en effet, la dette est impossible à combler. Et cette espèce de compensation symbolique que vous décrivez, pour moi, c'est une manière masquée de se donner bonne conscience et d'oublier le fait qu'on achète un enfant. Et en fait, le gros problème, vous citiez Pierre Berger, et ça, c'est dans certains milieux, on entend ça, c'est l'idée que la grossesse est un travail procréatif. En fait, ça date du féministe marxiste des années 70, l'idée du travail procréatif. Et donc, cette absence de distinction entre la reproduction et la production, qui me semble être la porte ouverte à toutes les marchandisations. Parce que finalement, même dans le cas des GPA éthiques, soi-disant, dans lesquelles la femme ne touche pas un centime. Ça existe, c'est possible.
C'est très rare.
Oui. Mais oui, ça existe, c'est possible.
Au sein de la famille, bien sûr.
Des amis et tout. Ce qu'on oublie de dire, c'est que par contre, il y en a qui s'en mettent plein les poches au passage. Ce sont tous les intermédiaires, toutes les cliniques, parce qu'effectivement, toute GPA est une PMA. On en reparlera. Toute GPA suppose une intervention technique dans la mesure où, évidemment, la mère porteuse n'a pas de rapport sexuel avec le père d'intention. Enfin, qui du coup n'est pas le père d'intention, qui est le père aussi biologique. Donc toute GPA est une PMA, donc il y a des cliniques qui vivent très bien de ce trafic. Dans la thèse de Delphine Lance que vous citez et que je cite, elle montre que aux États-Unis où la GPA est dite éthique, 9 grossesses par an permettent de vivre très confortablement à un obstétricien qui pratique des GPA. Donc c'est là qu'il y a un marché, et c'est pour ça qu'il faut dire que même, on va en reparler dans le cas des dons d'ovocytes et des dons de sperme, même si le donneur touche pas grand-chose au Danemark, et même si les donneurs-donneuses ne touchent rien en France, derrière, il y a tout un business qui est le business des cliniques, du matériel pharmaceutique, des transferts, des congélations, des stockages, et que c'est ça, excusez-moi, qui me semble très dangereux dans la mesure où les gamètes deviennent un matériau génétique, l'embryon devient un objet de transaction, que la transaction soit symbolique ou marchande, il reste un objet, un cadeau, comme vous dites. Et c'est ça qui me semble très très inquiétant. J'ai fait un peu l'effort d'aller voir des contrats de PMA et d'achat d'ovocytes et de sperme sur Internet. Eh bien, le vocabulaire qui est employé par ces contrats est absolument terrifiant. Je vous lis rapidement, mais on parle de clients, de stockage, de livraison, de vis de conformité. Il y a des cases description du crédit. Donc je vous lis un extrait. Donc ça, c'est pour acheter du sperme sur la banque de sperme européenne. Citation. Les produits et services peuvent être commandés en ligne et réglés à l'aide d'une carte de crédit. En cas de vis de conformité, la banque de sperme ne se porte pas garant auprès des clients. Et donc on peut choisir son sperme et ensuite on clique sur « Ajouter au panier ». Comme sur Amazon pour acheter un livre. Et en fait, ça, c'est inhérent, je pense, à ce processus d'externalisation de la filiation et de la reproduction. Parce que, à partir du moment où la reproduction se passe en dehors d'un acte sexuel et d'un don d'amour, forcément, ça implique des intermédiaires et donc quelque chose qui se calque sur la production.
Oui, mais si finalement ce que vous dénoncez, c'est essentiellement, ce sont les intermédiaires. Donc finalement. Or, on pourrait très bien s'en passer d'intermédiaires. Si l'État intervenait pour réguler ce type de choses, on pourrait très bien considérer que ce soit les gynécologues ou des...
Ah bah c'est déjà un intermédiaire, un gynécologue. Oui, mais maintenant, si vous voulez faire des PMA, il faut aller dans certains CHU où on vous prend avant, parce que maintenant, comme il y a déjà actuellement, sans parler de l'extension de la PMA aux femmes seules ou en couple lesbien, il y a déjà beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre possible. Donc si vous voulez être pris en charge dans les 6 mois, il faut aller dans des CHU où les gynécologues réalisent des dépassements d'honoraires donc qui évidemment ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, pour pouvoir vous prendre en charge plus vite. Donc,
toute forme d'externalisation de la procréation, c'est effectivement ce que vous promouvez dans votre livre. Mais quand ce n'est pas possible autrement, qu'est-ce que vous proposez? Simplement que les femmes qui voudraient avorter, finalement, donnent leurs enfants. C'est finalement ce que vous proposez à la fin de votre livre, qui est peut-être la chose qui m'a le plus surprise. Mais s'il n'y a pas d'autre solution que l'externalisation, j'aime pas du tout ce mot que vous proposez. Là, donc si on interdit totalement cette possibilité, qu'est-ce qu'on fait? Donc on dit à ces gens, n'ayez pas d'enfants, alors qu'ils ont absolument envie d'en avoir un, et qu'aujourd'hui, toute la société, quand même, fait en sorte qu'il y a une valorisation de la famille et que les gens demandent à faire famille. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas une forme d'individualisme, une forme de valorisation de la famille très forte.
Alors, il est vrai que nous sommes entrés dans une nouvelle période. La sexualité a été libérée de la procréation, et moi je pense que c'est un acquis extraordinaire pour les femmes et aussi pour les hommes, mais on en vient aujourd'hui à libérer la procréation de la sexualité. Donc une nouvelle filiation naît de ce deuxième affranchissement, avec tous les problèmes que cela pose, et notamment vous disiez, Laurence Brunet, que le droit doit savoir s'adapter. Mais je constate que dès qu'il veut fixer des limites, le droit se heurte aujourd'hui aux droits de l'homme. Dès qu'il veut faire entendre sa voix, on lui oppose la liberté discrétionnaire des individus, pourvu que tout le monde y trouve son compte, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut de lui-même et pour lui-même. Voilà. Donc à ce moment-là, il faudrait en effet accepter le lancer de nains. Et on vit un tel emballement des droits de l'homme aujourd'hui que la vie elle-même devient un droit. C'était un texte de Robert Badinter, il y a déjà un certain nombre d'années, où il disait « Le droit à la vie, qui est le droit fondamental, celui dont les droits de l'homme sont nés, qui est déjà chez Hobbes, le conatus, la conservation de soi, le droit à la vie doit pouvoir aujourd'hui se prolonger dans un droit à donner la vie. » Dans un droit à donner la vie. Mais alors ce droit, ce qui fait que le droit de l'individu à la vie, ça devient le droit à l'enfant, et l'enfant n'est plus le résultat, l'issue heureuse d'une rencontre sexuelle, c'est un droit qu'il faut accorder à chacun, ce qui d'ailleurs conduit à changer même la définition de la médecine, puisqu'elle n'est plus là pour guérir d'un mal, mais elle est là pour satisfaire un droit, et là nous passons en effet de la gestation pour autrui à la procréation médicalement assistée, puisque vous soutenez l'idée, en effet, qu'il faut l'élargir des couples infertiles, où la médecine est encore un soin, une infertilité, aux couples de femmes homosexuelles, et même aux mères célibataires, comme s'ils revenaient à la société, de fabriquer des familles monoparentales. Donc tout cela quand même, je veux dire, se fait dans cette configuration nouvelle sur laquelle il faut peut-être réfléchir. Excusez-moi, j'ai été un peu long, pardon.
Non, je voudrais juste... voilà, qu'on ne fasse pas le procès des droits de l'homme, parce que je pense que la jurisprudence de la Cour européenne est absolument caricaturée et qu'il n'y a absolument pas, de la part de la Cour européenne, la promotion d'un droit à avoir un enfant. Elle considère que c'est un élément de la balance, mais elle considère que les pays ont le droit de restreindre et d'adapter culturellement, de poser des limites qui correspondent à leur culture. Elle est sensible, par exemple, la Cour européenne n'a jamais promu un droit à l'avortement. Par exemple, curieusement, par rapport à ce qu'on pourrait penser, elle n'a jamais considéré qu'il y avait un droit de la femme à avorter ou à dépénaliser complètement l'avortement. Donc attention à ce qu'on dit sur la Cour européenne des droits de l'homme, parce que je trouve qu'on fait un procès un peu trop facile et que la Cour européenne avance de manière très prudente, un peu comme ce qu'on a voulu faire dans cette tribune, considérant qu'à partir du moment où les enfants étaient nés, c'était impossible de ne pas re-réfléchir sur la parenté. Ce que nous dit la Cour européenne dans les affaires Menson et Labassé, c'est ça, c'est-à-dire que les enfants sont nés et ils doivent avoir les mêmes droits. Donc à partir du moment où effectivement il y a ce désir d'enfant et cette attitude des individus qui vont effectivement à l'étranger pour obtenir ce qu'ils ne peuvent pas avoir en France, eh bien il faut réfléchir d'une autre manière. La Cour européenne ne nous dit pas il faut que vous tous légalisiez la GPA. Elle dit bien et elle sanctionne pas, elle dit bien que les parents, les époux Menson, les époux Labassé en l'occurrence, ne peuvent pas se plaindre que leur droit à leur vie familiale ait été bafoué. Attention, elle dit bien ça, c'est
alors,
très important.
Je donne tout de suite la parole à Maria Durano, oui. Mais je ne parlais pas de la Cour européenne des droits de l'homme, je parlais de la thèse philosophique, juridique et philosophique de Robert Badinter, qui me semble être au fondement du combat pour la GPA et la PMA pour tous, puisqu'il dit le droit à la vie... implique le droit de tout homme à donner la vie, de choisir les moyens par lesquels il pourra donner la vie. Voilà,
c'était oui, ça. Mais je vous le rappelais parce qu'aujourd'hui, l'interprétation de ce droit de l'homme, elle est quand même canalisée par une cour très importante auquel je veux rendre hommage et qu'il ne faut pas caricaturer dans ses productions.
D'accord, très bien. Marianne Durano.
Alors, j'ai plein de choses à dire, j'essaye d'être synthétique.
Allez-y,
d'abord,
allez-y.
Je rappelle juste pour vos auditeurs, moi, les trois raisons qui font que je m'oppose à l'extension de la PMA et également à la GPA. Donc, premièrement, parce que ça crée une filiation sans père, donc on estime que le père c'est quelque chose de facultatif. Deuxièmement, parce que ça crée, comme vous l'avez dit, une confusion entre le pathologique et le sociétal, la médecine n'ayant plus pour but de soigner mais de répondre à des demandes et de fournir des prestations techniques. Troisièmement, parce que ça entraînera nécessairement l'extension d'un marché dans la mesure où il y a déjà, comme on le dit, une pénurie de ressources. Ensuite, je vais essayer de vous répondre sur cette question de l'existence d'enfants à qui il faut donner une reconnaissance légale. Moi, j'aimerais qu'on repose le droit de chaque pays à avoir sa souveraineté juridique. Je trouve ça extraordinaire que des couples bafouent en toute conscience les lois d'un État, en l'occurrence en ayant recours à une pratique, la GPA, qui est formellement interdite en France, et ensuite, après avoir bafoué les lois de l'État dans lequel ils vivent, vont réclamer de cet État en toute impunité, qu'il aménage son droit pour eux. Et c'est comme si on disait je suis allée acheter du cannabis à l'étranger, et puis maintenant, j'ai pas le droit de le ramener en France, c'est vraiment injuste, je veux que la loi s'adapte à mon désir. Excusez-moi, mais vous bafouez la loi française en ayant recours à la GPA, vous allez donc dans un autre pays, et bien allez vivre dans l'autre pays qui autorise la pratique.
Vous auriez mis toutes les femmes qui ont avorté en prison alors ? Vous auriez donc mis toutes les femmes qui ont avorté en prison alors, avant que la loi ne soit...
Et pourquoi les mettre en prison ?
Non, mais parce que vous dites, elles ont...
Mais elles ne sont pas allées avorter à l'étranger, là, elles allaient avorter en France.
Non,
mais en l'occurrence, c'est pas tout à fait la même chose, l'avortement et la GPA. La réalité, c'est que la GPA, ensuite, comme vous le dites, il y a un enfant qui est là et dont il faut faire cas, alors que l'avortement, par définition, l'enfant n'est plus là. Mais ensuite, attendez, je finis. Pour cette question de dire, il y a des imbroglios juridiques, du coup, légalisons la PMA et la GPA pour résoudre le problème. On sait qu'à partir du moment où on légalisera la PMA et la GPA, il y aura de nouveaux imbroglios juridiques. Les individus sont très forts pour trouver des failles dans le droit et ensuite se créer des problèmes. C'est l'Agence française de biomédecine qui, en 2013, alertait sur le fait que si on autorise la PMA sans père, on voit plus bien au nom de quoi on interdirait, par exemple, les inséminations post-mortem avec le sperme d'un conjoint qui est décédé. Pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait plus ça ? Donc, Et là, forcément, ça va créer de nouveaux problèmes et de nouveaux cas juridiques. Et ensuite, dans 10 ans, on viendra nous dire, ah bah, vous voyez, il y a des problèmes, il faut bien leur donner une existence à ces enfants dont le père est mort. Enfin, voilà. Donc, je pense que on n'aura pas terminé parce que à partir du moment où on met le doigt là-dedans, on se fait se créer des problèmes juridiques. Troisièmement, juste pour une question de clarification du débat, quand on parle de droit à l'enfant, enfin, ou de droit à l'accès à la PMA, ou le droit de faire des enfants, j'aimerais qu'on se soit clair sur le sens qu'on donne à ce mot droit. Parce que, je ne veux pas vous l'apprendre, hein, Laurence Brunet, c'est une distinction en philosophie du droit assez classique, la distinction entre droit subjectif et droit objectif. C'est-à-dire que le droit objectif organise le partage du permis et de l'interdit. C'est-à-dire que personne n'a le droit de m'empêcher de faire un enfant, si je fais ce qu'il faut pour. Quelle que soit ma sexualité et mon état de vie. C'est-à-dire qu'en effet, si je suis une femme célibataire et que je décide de m'organiser avec un bon copain pour avoir un enfant, le droit ne peut pas me l'interdire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas le droit d'interdire, par exemple, à des femmes qui sont même handicapées mentales ou physiques, ou à des hommes handicapés mentaux ou physiques, d'avoir des enfants. Le droit interdit la stérilisation. Donc, du point de vue du droit objectif, tout le monde a le droit d'avoir un enfant. Après, il y a les droits subjectifs. Qu'est-ce que c'est qu'un droit subjectif ? C'est un privilège que donne l'État à une certaine catégorie de personnes en vertu de leur particularité. Et là, en l'occurrence, les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA n'ont pas droit à la PMA parce qu'ils sont hétérosexuels ou parce qu'ils sont en couple, mais parce qu'ils sont diagnostiqués infertiles. C'est l'une des trois conditions d'accès à la PMA qu'on oublie toujours de rappeler dans les articles sur le sujet. On dit toujours « aujourd'hui, les couples hétérosexuels ont droit à la PMA et pas les couples homosexuels », en oubliant que ce sont les couples hétérosexuels infertiles. Donc, de ce point de vue-là, si on élargit l'accès à la PMA aux couples homosexuels ou aux femmes seules, sans enlever la clause de l'infertilité, je veux dire, si je suis en couple homosexuel mais que je suis fertile, je ne remplis toujours pas les conditions d'accès à la PMA. Donc la réalité, c'est pas qu'il faudrait ouvrir la PMA à toutes les femmes, mais c'est qu'il faudrait supprimer la clause d'infertilité. Et là, du coup, ça veut dire qu'il faudrait qu'on parle aussi... Mais j'aimerais bien qu'on parle du coup de la question du remboursement de la sécurité sociale et de la légitimité de l'accès aux soins.
Vous avez tendance à faire de la loi quelque chose qui est posé comme ça, surplombant, qui ne bouge pas le droit objectif, se nourrit des droits subjectifs. Mmh. C'est une tension en permanence. Je vois pas pourquoi le droit objectif ne devrait pas évoluer. Bien sûr qu'il y a un cadre qui pose des limites, mais ce cadre est façonné, est tiraillé, est mis à l'épreuve parce que la société bouge. Sinon, on serait toujours à une époque où les femmes ne pourraient, le divorce serait interdit, où on ne pourrait absolument pas recourir à un avortement. Bien sûr, c'est une tension permanente. Le droit est en évolution et heureusement que les droits subjectifs ont bougé le droit objectif. Donc, il me semble que je ne comprends pas cette opposition que vous faites. Évidemment que si aujourd'hui on réfléchit, comme dans le cas des états généraux, à l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe ou aux femmes seules, évidemment qu'il va falloir modifier la loi. Sinon, évidemment, ça n'aura plus aucun sens.
Il y a une inégalité parce que les couples homosexuels n'ont pas le droit de faire des enfants. C'est juste que c'est pas forcément pour vous en tant que juriste que je dis ça, c'est pour les gens qui écoutent cette émission et qui sont pas forcément très au clair de cette distinction entre droit objectif et droit subjectif. J'aimerais juste qu'on soit bien clair sur ce qu'on entend par l'égalité des droits. C'est-à-dire que si on prend les individus, il y a une égalité des droits objectifs. Maintenant, c'est la question des privilèges qu'on accorde à certains en vertu de leur état.
Et moi, ma question, c'est que...
Mais si on supprime l'égalité des droits de manière objective, tout individu, personne ne peut lui interdire de se reproduire. Maintenant, la question de la PMA et de la GPA, c'est qu'on demande à l'État de nous fournir les moyens d'avoir l'enfant qu'on ne peut pas naturellement concevoir en vertu de notre sexualité ou de notre état de vie.
Mais du coup, la famille.
La société évolue, alors qu'est-ce que la société ? On sait très bien que les opinions se façonnent. On sait très bien que l'opinion publique, ça n'existe pas. Enfin, donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'opinion est prête, si ce n'est qu'elle a été préparée ? Donc, néanmoins, j'aimerais juste revenir sur cette question de l'infertilité. Ça veut donc dire, excusez-moi, mais si on supprime le critère de l'infertilité pathologique, pourquoi continuer à maintenir, par exemple, le critère de l'âge de la procréation ?
Mais il est d'ailleurs en train d'évoluer.
Il est en train d'évoluer. Mais donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas une femme de 60 ans, célibataire, à avoir son premier enfant à l'aide de la technique ? Ça voudrait dire que l'État, donc derrière la solidarité nationale, donc derrière la collectivité, doit fournir aux individus les moyens techniques et financiers de réaliser leurs désirs, quelles que soient les conditions. Et ça, moi, ça me pose problème.
Vous dites, Laurence Brunet, que le droit objectif ne doit pas être opposé au droit subjectif, mais il arrive aussi que les droits subjectifs soient systématiquement opposés au droit, parce que il revient au droit de fixer une limite, de séparer le permis du défendu, et on a toujours le sentiment qu'un droit est lésé par cette séparation même. Donc il y a bien un moment
bien
où les deux entrent en conflit.
L'évolution du droit et la tension.
Oui, l'évolution du droit. Deuxièmement, j'ai sous les yeux le livre de Geneviève de Lézy-Parseval, Famille à tout prix, parlant de la GPA, et elle dit qu'elle pourrait constituer un palliatif à une forme sociologique de stérilité masculine, celle des couples homosexuels. La sociologie de la stérilité, c'est quand même tout à fait impressionnant, c'est-à-dire nous sommes, il n'y a plus rien de naturel, la stérilité n'est plus un problème, et donc on peut tout faire, et de là aussi se pose un autre problème, sur lequel j'aimerais avoir vos lumières, c'est-à-dire de la celui de la réintroduction de l'eugénisme. Vous parliez de l'Amérique, GPA ou PMA, les candidats sont choisis sur catalogue, aussi bien les donneuses d'ovocytes que les mères porteuses.
Et les donneurs de sperme.
Et les donneurs de sperme. Sur catalogue, donc, on veut évidemment que ce soit du sperme de la meilleure qualité, que l'homme ait des diplômes, qu'il ait un QI exceptionnel, qu'il ait telle ou telle couleur d'yeux, ce qui fait que l'eugénisme totalitaire nous fait horreur, mais l'eugénisme libéral s'introduit sans trop de difficultés. N'est-ce pas un problème également, Laurence Brunet, dont le droit doit se saisir aujourd'hui? Autrement dit, je vais vous poser la question à toutes les deux. La technique avance beaucoup, les droits individuels réclament toujours davantage, ça peut être un cocktail assez explosif. En tout cas, la question se pose à un moment donné de fixer des limites. Alors, où les fixez-vous, Laurence Brunet, et où les fixez-vous, Marianne Durano? Laurence Brunet.
J'ai pas eu l'occasion de répondre à ce que Madame Durano disait tout à l'heure, mais avant de répondre sur l'eugénisme, je voudrais quand même clairement revenir sur le fait que voilà, la famille aujourd'hui a évolué. On a entériné cette évolution avec en 2013 en reconnaissant que les couples de même sexe étaient légitimement des familles. Donc c'est à partir de là.
Je suis bien d'accord avec vous.
Voilà, donc cette légitimation, elle n'est pas tombée d'un coup. C'est aussi une évolution de la société qu'on a accompagnée et qui finalement on a consacré. Bon, je ne vois pas au nom de quoi, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel l'a dit lui-même, il n'y a pas un droit pour un enfant à avoir un père et une mère. Ça n'a jamais été fixé dans le droit.
Ça n'est plus fixé depuis 2013.
Non, ça n'a jamais été fixé dans le droit.
Alors, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a un texte juridique dans la mesure du possible. Si la Convention internationale des droits de l'enfant précise dans la mesure du possible, c'est parce qu'elle sait bien que parfois, à cause de certains états de fait, de drames ou de problèmes dans la vie des individus, l'enfant ne peut pas toujours avoir accès à son père et sa mère, soit à cause d'un décès, d'une séparation ou que sais-je. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'institutionnaliser un état de fait en droit à priver l'enfant de sa filiation. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à partir du moment où en 2013 on légalise les familles, le mariage et l'adoption pour tous, je suis d'accord, et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai manifesté en 2013, je ne m'en cache pas, c'est la porte ouverte à la légalisation de l'accès pour tous à des moyens techniques de reproduction artificielle. On est en plein dedans.
Vous dites la porte ouverte de manière extrêmement péjorative, comme c'était quelque chose qui était une dérive pour vous. Mais voilà, je ne partage pas du tout point de vue, et je considère que peut-être qu'on aura le temps de revenir sur la place de ces tiers qui collaborent au projet parental d'autrui. Je pense que c'est une réflexion beaucoup plus large sur la place de chacun dans l'engendrement à plusieurs. Sur l'eugénisme, moi je ne partage pas du tout votre vision aussi pessimiste et diabolisante. Pour avoir lu quelques anthropologues qui ont travaillé sur ce choix, justement, par les couples, aussi bien aux États-Unis qu'aujourd'hui en France, des gens qui vont recourir à des banques de sperme au Danemark, je ne pense pas que les gens essayent de choisir l'enfant le meilleur. Ils ne veulent pas absolument une espèce de génisme social et biologique. Ils cherchent quelqu'un comme eux. Ils veulent, à la limite, et d'ailleurs des travaux d'anthropologues très récents qui montrent qu'on choisit un donneur comme on irait à une rencontre amoureuse. Donc je ne pense pas du tout que les gens aient envie d'avoir des enfants parfait, très beau, qui soit indemne de toutes les maladies. Non, je pense que simplement, ils cherchent à avoir un enfant qui leur ressemble et que dans cette forme d'appariement, qui est peut-être déshumanisée, bon, mais peut-être qu'effectivement, on pourrait améliorer les choses. peut-être c'est quand même mieux de choisir son donneur que de laisser en France les médecins faire l'appariement et le matching tout seul. Donc voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont tabous, dont on ne parle pas beaucoup. Et je ne crois pas que simplement l'attitude des individus soit eugéniste, individualiste, et qu'elle soit forcément à condamner.
Et alors, où fixez-vous la limite? Parce que je voudrais vous poser cette question avant de me tourner vers Marianne Durano. Il y a bien des limites, il y a bien des choses que la technique peut faire et que le droit doit pouvoir interdire. Ou bien est-ce que vous pensez que le droit à la technique et les droits subjectifs et la technique doivent imposer leur loi au droit dans tous les cas de figure?
Il me semble que le droit est là pour inciter les gens à réfléchir à ce qu'ils font. Et pour avoir travaillé pendant longtemps dans un centre d'éthique clinique, dont est issu le livre dont vous avez parlé, j'ai pu constater que les gens réfléchissaient beaucoup, beaucoup plus qu'on imagine avant d'avoir un enfant. Et lorsqu'un couple avec une grosse différence d'âge, par exemple, demande à recourir à l'aide de la procréation médicale assistée, et on est aux franges de la procréation post-mortem, je pense que justement, on doit leur faire plus confiance, parce qu'ils ont beaucoup plus réfléchi qu'on imagine. Donc le droit est là pour, en quelque sorte, donner des voyants lumineux, signaler qu'il y a des dangers, requérir le fait qu'il y a un consentement très éclairé, exiger de l'information, de la discussion. Je pense qu'ensuite, il doit se retirer.
Marianne Durano, dans cette tribune, je lis que les adversaires les plus acharnés de la gestation pour autrui, la tribune que vous avez signée, Laurence Brunet, sont souvent ceux qui se sont opposés naguère à la contraception, à l'interruption volontaire de grossesse, à la procréation médicalement assistée. Ce procès est un peu injuste parce que parmi les opposants, il n'y a pas que des tradis. Il y a Jacques Testard, très inquiet sur la question de l'eugénisme. Il y a Gérard Biard et toute l'équipe de Charlie Hebdo. Il y a Sylvia Nagasinski. Ce sont des gens classés à gauche. Mais je me tourne vers vous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? C'est-à-dire, où fixez-vous la limite, vous, Marianne Durano?
Alors, je pense qu'en effet, beaucoup d'opposants à la GPA et à la PMA, dont je suis, s'inquiètent d'une emprise croissante de la technique sur le corps des femmes. J'explique. On va, s'il vous plaît, après revenir à la PMA et à la GPA pour pas dériver, parce que si on commence à parler contraception et avortement,
on n'a plus beaucoup de temps. Hein.
Voilà. Je pense qu'en effet, la contraception, ça participe d'une emprise technique sur le corps des femmes, d'un morcellement du corps qui est soumis à des logiques la logique consumériste des laboratoires pharmaceutiques, ce sont les mêmes qui vendent les hormones de synthèse pour inhiber l'ovulation dans le cas de la contraception ou pour la stimuler dans le cas de la stimulation ovarienne, c'est les mêmes laboratoires. L'avortement, c'est quelque chose à part. C'est néanmoins, je pense, en tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, le problème d'une société qui, à toute détresse humaine, apporte une réponse uniquement technique. Ça, c'est juste pour répondre à votre question. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez, Laurence Brunet, à propos du marché de la séduction et de l'eugénisme. Effectivement, on va choisir son donneur comme on va choisir son partenaire sexuel. Ça participe d'une marchandisation de tous les rapports humains. Marchandisation de la sexualité, marchandisation de la reproduction, on est dedans. Pour ce qui est de l'eugénisme, quand même, j'aimerais répondre. Donc pareil, je cite, je suis allée faire mes petites recherches là pour essayer d'acheter du sperme sur Internet. On dit, extrait de contrat, l'embryon de meilleure qualité est sélectionné et inséminé dans la femme qui a recours à une PMA. Donc il y a effectivement l'idée qu'il y a différentes qualités d'embryons, comme il y a différentes qualités de produits, et qu'on sélectionne le meilleur. Rappelons que toute sélection est une élimination, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de produire l'embryon adéquat. Donc ça veut dire qu'on en produit plein, et puis qu'on sélectionne le meilleur, et que donc les autres, soit on les met en attente, on les congèle, on ne sait pas pour combien de temps, soit on les détruit. Donc toute sélection est une élimination. Ensuite, sélection sur quels critères? Rappelons que, en fait, du coup, si on garde ça en tête, toute PMA suppose une sélection. Même dans le cas de PMA pour des couples infertiles, il y a de toute manière la sélection de l'embryon qui sera le plus apte à survivre et à s'implanter. Donc, de ce point de vue-là, il y a toujours sélection d'embryons. Ensuite, pour ce qui est de l'absence de génisme, rappelons qu'il y a quand même des cliniques aux États-Unis qui se spécialisent dans le sperme de génie, enfin, et de QI de plus de 180. Ok, c'est peut-être anecdotique. N'empêche que moi, quand je suis allée essayer d'acheter du sperme sur la banque de sperme hier soir, on me propose de sélectionner les donneurs, donc en fonction de caractéristiques génétiques. C'est normal, c'est sûr que quand on est un couple caucasien, on n'a pas forcément envie d'avoir un enfant asiatique. Quoique, ça pourrait se défendre. Pour moi, c'est déjà des critères raciaux. Mais surtout, on peut choisir son donneur en fonction de son type d'étude. Donc moi, j'ai cherché un enseignant en philosophie, il n'y en a pas beaucoup. Alors par contre, un donneur qui a fait des études de sylviculture, agriculture, et là, il y en a plein. Donc là, il y a déjà bien tout un tas de marqueurs qui ne sont pas uniquement génétiques, qui sont des marqueurs sociaux, et qui, oui, sont une forme d'eugénisme libéral qui est en train de passer tranquillement dans notre société. on sent que personne ne trouve rien.
Donc vous préférez que ce soit les médecins qui fassent finalement l'appariement
Mais moi je préfère que...
Que ça n'existe pas.
Oui. Mais oui, mais soyons bien clairs. Oui, moi, je propose que la PMA, ce soit uniquement pour des cas d'infertilité diagnostiquée et que ce soit un soin, auquel cas les médecins ont tout à fait leur légitimité. Je termine juste, mais par exemple, la PMA dans le cadre de couples qui ont une maladie génétiquement transmissible. Là, évidemment, je comprends tout à fait que les médecins choisissent l'embryon qui ne soit pas porteur de cette maladie, puisque c'est la raison pour laquelle les couples ont recours à la PMA. En revanche, que des médecins, des cliniques ou même des gens puissent sélectionner des embryons selon des critères extérieurs, oui, moi je trouve que c'est inquiétant.
Pour conclure, oui. Laurence Brunet, c'est à vous la conclusion. Que répondez-vous ?
D'accord, déjà, moi j'ai un peu le même constat que vous. Finalement, que la technique a eu une emprise très forte sur les individus, mais j'ai des conclusions, je pense, complètement peut-être même opposées aux vôtres. Moi, je considère effectivement aujourd'hui que les PMA, c'est un parcours du combattant, que ça se passe pas très bien, que je suis pour les ouvrir, en revanche, que je pense qu'elles se passeront mieux avec des gens moins infertiles dans le cas des couples de même sexe.
Est-ce que vous pensez qu'on va vers ça avec les états généraux de la bioéthique? On va vers l'ouverture, non?
On va vers l'ouverture. Ça, c'est peut-être pas complète et peut-être pas cohérente. Parce que moi, je trouve que s'il y a finalement le point le plus important sur lequel on n'a pas du tout discuté aujourd'hui, qui est la question de l'autoconservation qui rend des ovocytes par les femmes qui sont en âge de procréer et qui, d'une certaine manière, ne seraient plus passives de la technique, mais peut-être aujourd'hui seraient plus actives dans la manière de gérer la question de l'horloge biologique. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la PMA n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien. Et il me semble qu'au lieu de la subir, ça serait bien que les femmes anticipent les choses d'une autre manière. Voilà, ce que je voudrais, c'est qu'on ouvre l'éventail le plus large possible, parce que je ne crois pas qu'on pourra faire autrement. Bien sûr, une vision idéal, irénique, comme vous le proposez, Marianne Durano, serait peut-être meilleur, ça serait mieux qu'il y ait moins d'hormones, ça serait bien effectivement que les enfants peut-être soient faits d'une manière complètement à l'ancienne sous la couette, mais je crois que c'est pas possible et c'est pas le sens de l'histoire, et c'est pas ce qui se passe. Non mais c'est le sens de l'évolution de la société, on peut toujours revenir avant, mais je crois qu'aujourd'hui offrir le meilleur éventail, enfin offrir un éventail le plus large possible et permettre aux couples de choisir le mode qui leur correspond le mieux, et en particulier aux femmes de pouvoir faire des enfants à un moment donné où elles sont en âge de le faire, et en tout cas de prévoir d'anticiper les effets de l'âge, me semble aujourd'hui une façon d'aller jusqu'au bout de cette forme de cohérence. Et oui, je suis assez favorable à ce qu'on mette à plat tout cet éventail.
Elle aimerait beaucoup vous répondre. Malheureusement, il est trop tard. Moi, je relève seulement cette expression qui est tout à fait étrange et qui prouve que, nous entrons dans un nouveau monde à l'ancienne sous la couette. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie l'une et l'autre. Cette discussion m'a passionné. Marianne Durano, vous avez publié « Mon corps ne vous appartient pas » contre la dictature de la médecine sur les femmes chez Albin Michel. Et je cite aussi le livre que vous avez coordonné avec Véronique Fournier, Laurence Brunet, l'autoconservation ovocytaire pour raison d'âge, y a-t-il des arguments éthiques pour l'interdire ? C'est publié au Centre éthique clinique. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La langue française, état des lieux ». Mes invités seront Alain Borer et Jean-Michel de la Comté. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.